livre de Horoth du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Cook. Et la semaine dernière, on a parlé de l'introduction du livre, qui n'était pas de lui, mais de son fils, le Rav Tzvi Yehuda. Et donc maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Ça y est, d'ailleurs, donc, on rentre dans la première partie qui compte 8 chapitres et qui parle de Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Rappelons-nous, Horoth, le terme Horoth dans le langage du Rav Kook, ça veut dire
lumière.
Alors, pas lumière, on avait dit Tfisot. C'est-à-dire façon de voir les choses. Une istaklout, une vision. Comme on dit en français, à la lumière de ce témoignage, je vois les choses différemment. C'est-à-dire donc, Horoth, c'est une façon de voir les choses. Donc là, on va parler de Eretz Israël. Le Rav Kook, dans ses 8 chapitres, va nous expliquer quelle est la valeur profonde de la terre d'Israël. D'accord? Parce qu'on ne peut pas parler de résurrection nationale en Ouganda. La résurrection nationale, elle doit être en terre d'Israël. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a de particulier à la terre d'Israël? Eh bien, c'est ça qui va vérifier ici. Ça a l'air? Alors, allons-y. Chapitre 1, c'est parti. Eretz Israël et Inena. Donc, directement, on commence par une définition par la Shlila. Ok, vous l'avez? Yes. Eretz Israël et Inena. Ce n'est pas. Alors avant de savoir ce que c'est pas, c'est déjà intéressant de voir que la première chose qu'il veut nous dire, c'est qu'est-ce que c'est pas. Là-bas.
Parfois c'est plus facile de définir quelque chose parce que c'est pas.
Nachon. Quand est-ce que c'est plus facile de définir quelque chose par la Shlila? Kechol shedavar gadol, askodem kol mavini mazelo. Ça ne veut pas dire qu'on a tout compris, mais plus quelque chose est grand, et plus c'est important de savoir ce que c'est pas. Pourquoi? Pour ne pas commencer à se tromper. Akadosh Baruch Hu, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Avant de pouvoir même essayer de comprendre qu'est-ce que ça va apporter, d'abord, sache qu'est-ce que c'est pas pour pas te planter. D'accord? Donc, Eretz Israël, Einena. Einena ma. Ben, Einena, ce qu'un rabbin, juste avant le Rav Kook, il a dit que c'était. C'est-à-dire que la première phrase ici, c'est une réponse. Alors, il faut juste avoir les infos. Mais avant le Rav Kook, il y avait un rabbin qui était très influent en Europe, qui s'appelait le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, comme vous le savez, était le rabbin qui a sauvé le judaïsme d'Europe occidentale de l'assimilation. Très, très simplement, il a créé le concept de docteur rabbinaire. C'est-à-dire que pour lui, il fallait que tous ses élèves du rabbinat, ils aient un doctorat universitaire, pas forcément en médecine, mais un doctorat universitaire, pour montrer qu'on peut très bien être à fond dans la Torah et également attaché aux études, à la culture mondiale et ainsi de suite. Il appelait ça, enfin non pas lui, mais on a appelé ça plus tard le néo-orthodoxisme. Ok ? Maintenant, qui avait précédé le Rav Hirsch ? Dans la même idéologie, mais où ça n'avait pas marché du tout. Un autre rabbin qu'on appelait dans le milieu Rambeman, pas Rambam, Rambeman. C'est qui Rambeman?
Rabbi Moshe.
Rabbi Moshe, ça c'est bon.
Ben.
Rabbi, on va utiliser sur le nom plus facile. Rabbi Moshe Ben Menachem Mendelssohn. Moshe Mendelssohn, qui, je vous le rappelle, était rabbin de son état.
Hein? Et qui s'est converti.
Non, Chas v'Shalom. Chas v'Shalom. Son fils.
Ah, son fils.
Ouais. Non, j'ai pas le petit nom. Félix? Non, c'est son petit-fils, le compositeur.
Mais c'était pas le même.
Moshe Mendelssohn, c'est 100 et quelques années avant le Rav Hirsch. Donc c'est pas une question de courant. Mais Moshe Mendelssohn va être. Moshe Mendelssohn est quelqu'un.
Beaucoup plus ouvert,
non? Non, non. C'est plus ou moins la même idée. C'est-à-dire que nous, on connaît Moshe Mendelssohn de par l'échec de l'après. C'est-à-dire que lui, quand il te dit sois juif à la maison et un homme dehors, en fait un Allemand dehors, C'est pour dire, tu gardes toute ta Torah dans la structure juive, mais quand tu es à l'extérieur, bah, tu es un citoyen du monde, en l'occurrence en Allemagne. Maintenant, Moshe Mendelssohn lui-même, il est shomer Torah ou mitzvot, kala kevachamura, c'est pas, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il ne réussit pas à transmettre à ses élèves, à ses enfants, à la génération d'après, parce que quand tu dis, allez, vas-y, sors, c'est bon. Et tu vas pouvoir garder ta Torah à la maison et être complètement intégré dehors. Kachemeod, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que le Rav Hirsch qui dit, il faut les deux, je suis d'accord qu'il faut les deux, mais pour ça, il faut que tu sois officiellement dehors docteur, mais aussi rabbinaire. C'est-à-dire, ta carte de visite, pour le monde extérieur, elle doit coupler les deux.
Tu prends avec toi partout les deux.
Voilà, tu prends avec toi partout les deux. C'est pas dehors, il y a ça, et à la maison, il y a ça. C'est et à la maison, il y a les deux, et dehors, il y a les deux. C'est ça ? Et ça va marcher. Ça va marcher pour un petit nombre, mais ça va marcher dans le sens où, bah, les farod.
On va le sortir, le docteur.
Donc quoi, oui, alors, la rabbinut aussi. Oui, non, non, quel est le problème ? Les gens, ils étudient.
C'est la combinaison des deux, je veux dire.
Bah, le Rav Hirsch, il pense que c'est faisable. C'est ça ? Regarde, c'est intéressant parce que lui, il n'avait pas de doctorat. Mais bon, ça a l'air. Quoi qu'il en soit, donc lui, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, donc voilà, avec tout le bien qu'il a fait. Il a écrit énormément de livres, commentaires de la Torah, Igrot Safon, Chorev, enfin des must du judaïsme. D'ailleurs, il a un commentaire extraordinaire sur la faute de Yitzhak Avinu au niveau de son éducation. Il dit c'est à cause de Yitzhak que Esav il a mal tourné. Eh oui, parce qu'il a éduqué Yaakov et Esav de la même façon.
Théorie.
Voilà. Alors qu'il aurait dû comprendre que Esav il a besoin d'être éduqué dans les champs avec les chiens et les animaux et tout ça. Et alors que Yaakov, lui, il aimait bien être assis. C'est-à-dire que Esav il avait besoin de Rétaline et Yaakov non. On va parler en langage actuel. C'est vrai. Bekitsour, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch était fondamentalement opposé au sionisme. Mais fondamentalement, c'est pas peut-être bien, peut-être pas, complètement opposé. Il y a à son époque deux rabbins, pour ne pas dire trois, qui sont les porte-drapeaux de l'idéal sioniste qui est en train de se remettre en place, qui sont le Rav Tzvi Hirsch Kalischer et le Rav Eliyahu Gutmacher, et le Rav également Yehuda Chayal Kalai. Et ils commencent à prêcher de partout, ils font partir en Israël. Le Rav Kalischer, il écrit un livre qui s'appelle Drishat Zion. Et il rencontre le Rav Kalischer et Gutmacher, il rencontre le Rav Hirsch et à Francfort. Et le Rav Hirsch va leur dire, ce que vous voyez comme une mitzvah, moi je le vois comme une faute et pas parmi les plus petites. Nous n'avons pas le droit de partir en Eretz Israël, car justement maintenant que nous avons reçu l'émancipation, l'égalité des droits, eh bien nous devons rester en exil, insuffler Gdusha et Tahara en Allemagne, et les Allemands nous diront merci.
Oui. Ils ont dit merci.
Il semblerait que historiquement il y a eu un bug au niveau du merci allemand. Ou alors ils n'ont pas lu les livres du Rav Hirsch. Mais en tout cas, bon. Et donc pour lui, le Rav Hirsch il a lu la Torah. Il sait qu'il y a Eretz Israël dans l'histoire. Donc il te dit oui, bien sûr. Eretz Israël c'est un endroit magnifique. Mais c'est un plateau. C'est un plateau sur lequel tu peux mettre des juifs et c'est sympa. Parce que ça leur donne une plus grande faculté de se rattacher à la Torah. En fait, la terre d'Israël, pour le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est comme un Sefer Torah. Tashmishek Dusha. S'il y a le Sefer Torah dans la communauté, c'est très bien, on va pouvoir lire la Torah. S'il n'y a pas de Sefer Torah, est-ce que la communauté a disparu ?
Non.
Non. Mais on ne lira pas dans la Torah. On lira dans le Chumash. On se débrouillera. Donc pour le Rav Hirsch, Israël, c'est bien. Et si on pouvait y être, bah pourquoi pas. Mais c'est absolument pas nécessaire pour le peuple juif.
Il y a une différence entre ne pas être nécessaire et être opposé.
Alors, peux dire, c'était pas nécessaire pendant 2000 ans. Maintenant, on a un rôle à jouer en Allemagne. Ok. Et donc à cela, le Rav Kook répond. Et il dit, « Eretz Israël einena davar chitsoni. Kinyan chitsoni la Uma. » C'est-à-dire un acquis extérieur au peuple juif. Yesh Am Israël et Yesh Eretz Israël. Deux choses différentes. Rak betoch haemtsai lematara shel haitagdut haklalit. C'est quoi ça? Tu dis, bah oui, Israël pourrait n'avoir comme seul but d'être un plateau sur lequel on peut réunir les juifs. Non, c'est pas que ça, me dit Rav Kook. Varzakat kiyuma achomri. Peut-être que c'est aussi un endroit où justement maintenant les juifs vont pouvoir ne plus vivre de la famine. Ou alors, afilou arouchani. Attends, en Eretz Israël, tu vas étudier sur les bords du lac de Tibériade. Ah, tu vas dans les montagnes de Jérusalem. Avir harim tsalul kayain vera choranim. Non, ça c'était tout ça, c'était la vie du Ravirge. Pour lui, aller se balader à Jérusalem, c'est permettre de... Ah, mais bon, si on n'a pas ce... Ah, c'est pas grave. Ma'ase shaya kachaya. Comment on traduit ça en français ?
Il était une fois.
Il était une fois. Il était une fois le Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui était fatigué et il a décidé de prendre des vacances. Où est-ce qu'on prend des vacances quand on est en Europe ?
En Suisse.
En Suisse. Bah, évidemment, on va en Suisse.
À la montagne.
À la montagne. Chez les Bochko. Chez la famille Bochko. À Montreux. Tous les rabbins d'Europe de l'Est, d'Europe du Nord, d'Europe centrale, d'Europe du Sud, ils allaient tous en vacances chez les Bochko.
Ouais,
c'était la seule yeshiva où on pouvait manger kasher, où il y avait un minyan, où il y avait la Torah dans les montagnes. Donc tous les rabbins, quand ils allaient en vacances, ils allaient là-bas. Quand tu vois les haskamot du livre Or Hayahadut du Rav Yerachmiel Eliyahu Bochko, Rosh Yeshiva, tu vois des noms, je t'ai dit, waouh, l'Haskama, le Chafetz Chaim, le Rabbi Lubavitch de l'époque. Ils passaient tous par là-bas, le Rabbi Dobrisk, et tout le monde passait par là en vacances. Et donc, bon, bah, si déjà. Hein, t'as vu? C'est déjà pas mal. Et donc, eh ben, le Rav Hirsch, il part en vacances en Suisse. Il va dans les montagnes. Il voit les montagnes. Et il dit à la personne qui l'accompagne, il dit, quand j'arriverai là-haut et que Dieu me demandera « Aïm istakalta al olami » est-ce que tu as regardé mon monde ? Je lui dirai « Oui, j'étais en Suisse. » Ça, le bête, c'est bien fait. « Ma'ase shaya kachaya »
C'est vrai que c'est beau.
Ça manque.
Tu peux, quand même.
Comment ça ? Tu te balades dans les montagnes de la Galilée ?
Ouais.
Eh bien, tu vois, c'est ça toute la différence. Après, tu choisiras ton camp. Parce que « Ma'ase shaya kachaya » Il était une fois le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, qui était coincé en Europe pendant la Première Guerre mondiale. Après avoir passé un petit moment en prison et avoir été relâché, parce qu'il était Natin Roussi, il avait la citoyenneté de l'Empire russe, et que donc au début c'était problématique. Mais donc finalement il a été relâché et il part en Suisse chez un monsieur qui s'appelle Monsieur Kimri. Et M. Kimri, il se rend compte qu'il est en dépression totale, alors il l'emmène en tioul dans les montagnes. Et quand il voit les montagnes, à aller 40 ans d'écart avec le Rav Hirsch, les mêmes montagnes, hein, il se met à pleurer et il dit « Yerushalayim harim savivla ». Jérusalem est entourée de montagnes. Qu'est-ce que moi je fais ici ? Donc toute la question est une question de « Est-ce que quand je parle de la Suisse, je dis ça me manque ?» Ou est-ce que je dis, quand je suis en Suisse, ah, Jérusalem. Agave, moi je pose la question, comment est-ce que vous comprenez le verset Yerushalayim, Harim, Saviv, là? Littéralement, Jérusalem est entouré de montagnes. Ken?
Jérusalem, le point...
Non, mais c'est vrai que Jérusalem est entouré de montagnes?
Non. Ça veut dire qu'il y a d'autres villes, quoi, que c'est le centre du monde et les autres villes.
Ah, donc faites un pérouche.
Ouais.
D'accord.
Ah, pas le choix aussi.
Non, elle est sur
des montagnes. Elle est
sur la montagne.
Non.
Donc elle n'est pas entourée de montagnes.
Elle est entourée de montagnes.
Les amis, c'est où Jérusalem? C'est qui a écrit ce verset de Tehilim? C'est David. Donc c'est où Jérusalem? À l'époque de David. Non. C'est Ir David. Quelqu'un a déjà été à Ir David?
Oui,
ben c'est quand vous êtes à Ir David, vous comprenez ce qu'écrit David. Parce qu'à Ir David, à l'est, tu as le mont des Oliviers. Au sud, tu as Re Yerushalayim, ce qu'on appelle aujourd'hui, comment ça s'appelle, nous Guillot. Guillot, c'est encore de l'autre côté. Mais, hein,
la ceinture verte.
Ouais, ouais, non, mais la montagne en face, Armon Hanatziv, le Givat Armon Hanatziv et Abu Kabir, tout ça. Tu vas à l'ouest, tu as la Giva Maharavit, ce qu'on appelle aujourd'hui le Rova. Et au nord, Aramoria. Donc, Yerushalayim est plus bas que ces quatre montagnes. Et donc, quand tu es en haut de Jérusalem, de Ir David, tu regardes, tu vas me mettre. Yerushalayim arrive, ça arrive là. Agave, c'est quoi la suite du verset? Alors, il y a un livre qui s'appelle le Tanakh. Et dans le Tanakh, il y a un livre qui s'appelle Tehilim. Non, c'est un livre intéressant. Et à notre niveau, on a même le droit de le lire la nuit. Ah bon? Parce qu'on t'a dit qu'on n'a pas le droit d'étudier le Tanakh la nuit. Il était une fois où j'ai demandé à Rav Avroum Shapira, Rosh Yeshivat Merkaz Arav, est-ce qu'on a le droit de lire des Tehilim, d'étudier le Tanakh la nuit? Il m'a dit, quand tu seras Mekoubal, alors tu arrêteras d'étudier le Tanakh la nuit. Parce qu'à Alpia Kabbalah, on n'étudie pas le Tanakh la nuit.
On étudie la Kabbalah la nuit, non?
La Kabbalah.
Oui, mais dans la Kabbalah, c'est que des versets.
Alors, tu remarqueras que quand c'est la nuit, ils sont moins prompts à citer des versets, à lire des versets en entier. Mais Alpi Alakha, c'est moutard. Et encore plus, si tu n'as pas d'autres moments dans la journée où tu peux te poser et étudier que le soir, tu ne vas certainement pas dire « Ah non, le coucher du soleil, ça sera Netflix. Désolé. » C'est pas... Si c'est où ça, où ça, Kitsour, donc non, Tehilim et Yerushalayim Arim, ça vive là, VHM, ça vive là, Amo. Parce que, en fait, quand tu dis Yerushalayim Arim, ça vive là, c'est pour dire, c'est pas stratégique. Jérusalem est entouré de murailles, de murailles qui sont les autres montagnes, donc en fait, c'est pas bien. Altidag, VHM, ça vive là, Amo. Kakadosh Baruch Hu, c'est lui qui est notre montagne, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on étudie. Mais c'est pour le kiff. Donc, Eretz Israël et Inéna, kacha. Ce n'est pas simplement un endroit où on peut se réunir, un endroit où on peut se la kiffer spirituellement, faire plus de mitzvot. Non. Quand quelqu'un te demande pourquoi il faudrait faire l'aliyah, si tu lui dis, ah parce que attends, il y a plein de juifs. Enfin, tu seras entre juifs. Bah non, c'est pas une bonne raison. Oui, mais non. Ah non, mais je viens parce qu'il y a une parnassa de folie en Israël. Tu fais de la high-tech, ça va être de la folie. Oui, mais non. Attends, je viens en Israël pour pouvoir faire mitzvot atluyot ba'aret. Les mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël. Oui, mais non. Alors c'est quoi? C'est ça? Donc maintenant que le Rav Kook nous a dit qu'est-ce que c'était pas, Boniré ma zekel.
Le Rav Kook, il dit que c'est pas ça.
Naron, il dit c'est pas ça.
Mais ça, enfin, ça pourrait être aussi ça, quoi.
Ben non, il te dit, c'est pas ça. C'est pas ça, la valeur profonde d'Israël. C'est pas ça, mon frère. C'est-à-dire que ça, c'est des détails. Le fait qu'en Israël, tu puisses faire plus de Torah, c'est vrai, mais c'est pas ça qui est important, c'est un détail.
Je sais pas, on parle beaucoup du fait que le centre de la Torah s'est déplacé quand même de, enfin, je sais pas, de l'Europe aux États-Unis et maintenant c'est en Israël. Je me dis, ça a certainement une valeur aussi, non? Ça a seulement une valeur pour dire, voilà, Israël, waouh, que la Torah, c'est ici qu'il y a le mercat
mais
de la Torah.
Mais attends, deux secondes. T'as raison que la Torah, elle est revenue à la maison. Mais la Torah, elle a toujours été centralisée vers Israël. Même quand elle était à Brooklyn.
Mais le fait que ce soit Kimitzion Tetzet Torah, quoi.
T'as raison. C'est Vadaï que t'as raison.
Quand le Rav dit que c'est pas pour la Torah ou c'est pas pour le mercat. Même, je pense que...
Non, c'est pas que c'est pas pour ça. La valeur d'Eretz Israël, c'est pas que tu peux faire plus de mitzvot en Israël qu'en Roule. C'est sûr que tu peux en faire plus. Près de 200 en plus. Mais c'est. Ah oui, toutes les mitzvot à toi de Baharet, mitzvot à toi de Bamikdash. Hein?
Ça veut dire c'est pas l'essence.
Voilà, c'est pas l'essence de la terre d'Israël. Exactement. C'est vrai que tu peux en faire plus. Et c'est vrai que c'est là que se réunissent le peuple juif. Mais c'est pas ça. L'essence de la terre d'Israël.
Après, les haves et les toldot, tout ça c'est toldot, il faut trouver le
hav. D'accord, c'est quoi l'essence? D'accord? Alors allons-y. Eretz Israël, Agav, pourquoi est-ce qu'il commence, j'aurais dû commencer par là, mais pourquoi il commence la première partie de son livre par la valeur intrinsèque de Eretz Israël? Omer à Sefer Mitzvot Gadol, Rabbi Moshe Mikusi, que dans chaque génération, Yesh Mitzvah t'adore. Il y a le sujet de la génération. Ce n'est pas dire que les autres mitzvot ne sont pas importantes, mais dans chaque génération, il y a un sujet qui est le sujet prédominant de la génération. Et le rôle du Gdol Ador, c'est de savoir quelle est la mitzvah de l'Ador. Nous dit le Rav Kook, la mitzvah, le sujet de notre génération, c'est la terre d'Israël. C'est le sujet. Peut-être qu'aujourd'hui, on a dépassé, et que maintenant, on est arrivé à autre chose, parce que ça y est, on a intégré ça. Peut-être, je ne sais pas. Mais à son époque, il te dit, c'est ça le sujet. Alors, c'est quoi, Eretz Israël? Eretz Israël, hi, chativa atzmutit, kshura bekesher chayim ima uma. Chativa, c'est ce qui est mechaber. Chativa, est-ce que vous avez déjà eu un costume qui a vieilli au niveau des coudes? À l'époque, il y avait une grosse mode qui revient chez les bobos. Voilà, ils mettent des patchs. Ils mettent un truc comme ça sur le trou et ça fait genre, c'est maintenant de nouveau un Zechativa. Mais langage, dans le langage de la Gemara, pas de la Mishnah de la Gemara. Zechativa, ça fait de deux choses qui semblent être séparées, une seule et même chose. Donc nous dit Eretz Israël, Ichativa Atzmutit, c'est-à-dire Be'etzem Adavar, qui donne un lien de vie avec le peuple juif. En français, Eretz Israël Ve'am Israël, tant qu'ils sont séparés, ils ne donnent pas la vie. Le lien qui les unit, c'est le lien qui donne la vie. Alors, c'est quoi le lien qui donne la vie? C'est un lien de Khatan Vekala, mari et femme. C'est le lien qui donne la vie.
Tu as traduit à Ouma par
le peuple
d'Israël. Oui. C'est la nation, en fait.
Oui, la nation. Enfin, non. C'est moi qui ai bien traduit, en fait. C'est toi qui m'as dit en erreur.
Non.
Ouma, ça veut vraiment dire peuple. Aval, Goy, c'est la nation. Okay, la notion de Goy, c'est une nation, c'est une notion souveraine.
Une Khativa, l'armée de quoi?
Une Khativa, c'est ce qui va réunir tous les soldats sous un seul drapeau. Il y a justement la différence à l'époque quand ils ont fait toutes les Khativot, aujourd'hui ils font tous la même chose. Mais quand tu avais Khativa Tatsan Khanim, ils ne faisaient pas du tout la même chose que Khativa de Golani. Il y avait un truc qui réunissait tous les Golan Chekim, c'est la Khativa. Ça, donc c'est le même état d'esprit. Donc, le Aouma, c'est ce qui donne la dimension de peuple réuni ensemble. Maintenant, c'est un lien de vie, donc de Khatan Vekala, ce qui est fondamentalement opposé au lien qui unit les autres nations à leur terre. Car les autres nations, comment se sont-elles formées?
La langue.
Alors, il y a la langue, tu as raison, l'histoire, mais il y a l'événement le plus important, ils étaient au même endroit. C'est-à-dire, comme il y avait des gens qui étaient au même endroit géographique et qui partageaient donc la même langue et une histoire commune, ils se sont créés des nations.
C'est une évolution naturelle.
Oui, exactement. C'est l'évolution naturelle de gens qui se trouvent à un endroit. Donc, dans le langage moral, le lien qui unit les nations avec leur terre, c'est une relation de parents à enfants. De la même façon que les parents donnent la vie aux enfants, eh bien pareil, il y avait la terre, elle a donné la vie à la nation. D'ailleurs, le français appellera la France la mère patrie. La mâche, maman et papa. Vaterland en allemand, Motherland en anglais, comme jamais. Ok? Ah ben, le problème de la relation parent-enfant, c'est qu'elle ne peut pas donner la vie. C'est assourd. C'est complexe d'Oedipe collectif. Donc, c'est pas l'idéal. Parce que c'est une relation naturelle. Qui dit naturelle, dit dénuée de choix. Et donc dénuée de tout sens moral. La nature, elle n'est pas dans le domaine de la morale. ni du choix. Alors que le peuple juif, naturellement, il est né où ?
En Égypte.
En Égypte. Il est né en Égypte. Et quelle est la halakha ? On n'a pas le droit de retourner vivre en Égypte. Ah oui, on ne veut pas de complexe d'Oedipe collectif. Donc, non. On sort d'Égypte.
C'est pas là
aujourd'hui. Oui. On n'a pas le droit d'aller vivre en Égypte. Sauf si on n'a pas le choix.
Comment ils ont géré la communauté égyptienne ?
On n'a pas le choix. On n'a pas le choix.
On est par défaut.
C'est-à-dire Alakha ve'en morinken. Qu'est-ce que je te dis ? Non, parce qu'ils te disent. Le Rambam te dit, moutar la lechet le pragmatia. C'est-à-dire, si tu dois faire du business, tu peux aller là-bas. Faire du business.
C'est pas de s'installer.
Bah, je m'installe pas, je fais du business pendant 10, 15, 20 ans.
Et mon fils aussi. Ouais.
C'est-à-dire, quand tu sors de chez papa et maman.
T'es très
sérieux. Bon, bon, bon. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On s'arrange.
Ouais.
Au-delà de l'Égypte. Je vous rappelle quand même que peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais d'après la Torah, il faut habiter en Israël. Donc c'est pas que l'Égypte. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y a des communautés très sérieuses qui continuent aujourd'hui à être installées ? Non, mais ça, alors tu dis, ça, c'est un issur lota assez. Il y a une mitzvah assez de venir ici. C'est pas une question de temps qui est venu ou pas. Il y a une mitzvah assez de venir en Israël.
Ça va.
Donc tu es en train de me dire, on s'arrange. Ça va. On s'arrange. Le Rambam, c'est le premier qui te dit, Yeshisour, je crois que c'est même la mitzvah, si je me trompe pas, Nun Dalet, des mitzvot Lota Asé, je crois, du Sefer Mitzvot du Rambam. Donc il te dit, et pourtant lui, il a vécu en Égypte. C'est-à-dire, donc.
Tant que c'est pas mitzvah à même tête,
ça va. Donc c'est un vrai problème. C'est-à-dire, donc qu'est-ce qui se passe ? Nous dit ici le Rav Kook, nous, le lien qui nous unit avec la terre d'Israël, c'est un lien de mari et femme. Comme il va y avoir marqué dans les prophètes, dans Shea Anavi par exemple, Ve'artsi Tibael, il y a une dimension de bia, de relation intime entre le peuple juif et la terre d'Israël.
Le problème, c'est qu'entre un homme et une femme, parfois ça va pas, parfois on peut, alors qu'avec une maman, ma maman à moi, avec ma maman.
Alors, pour l'avoir déjà entendu rire, là, c'était pas. Hein, tu en as un qui va aller dormir chez sa mère.
Allez, je vous aime. On le fait chez moi ensemble.
Non mais c'est nakhon que.
Non, mais c'est vrai.
On t'a dit, t'as le droit de retourner en Égypte, les pragmatias. C'est-à-dire que tu peux aller manger un coup de trousse chez ta mère. Zemoudar. Mais tu peux pas rester vif chez elle jusqu'à 50 ans. C'est pas possible. Ça a l'air. Même pour elle, quoi. Non, mais ça veut dire que Nachon, avec ta femme, il y a des hauts et des bas. Nachon, des fois tu vas dormir dans le salon, des fois tu vas pas dormir dans le salon. Nous, ça a l'air. Et Gab, il m'a dit, des fois tu sors, des fois tu reviens. Aval, vous aurez remarqué que le prophète Yechezkel nous dit Atem kruim Adam, ve'en umot haolam kruim Adam. Je vais sans rentrer dans le détail de ce que ça veut dire. Un de nos définitions, c'est Adam. Mais Anien, qu'il n'y a que en hébreu que le mot femme est le féminin étymologique du mot homme. En français, par exemple, femme, homme, rien à voir. Et dans les autres langues non plus. C'est-à-dire que man, woman, c'est pas le féminin étymologique. On ne forme pas le féminin en anglais en rajoutant « wo » devant. D'autant plus que « woman », ça ne vient pas de l'anglais, ça vient de l'allemand. C'est « womb-man » qui veut dire littéralement « homme avec utérus ». Donc voilà, vous voulez savoir la définition d'une femme. C'est pas compliqué.
Pour les Allemands.
Hein ?
Pour les Allemands.
Pour les Allemands, bien sûr. Mazé, quand tu vois « anthropos » en grec. Guinéa, rien à voir. Gever. En araméen, comment tu dis une femme ?
Iteta.
Iteta. En hébreu moderne, on a fait Geveret. Mais ça n'a rien à voir. Tu as pris un mot en araméen, tu as fait une traduction en hébreu. Non. C'est Baya. J'ai entendu aujourd'hui un rabbin qui voulait répondre contre le féminisme tout le temps, machin. Il dit, mais vous savez, dans la Torah, il y a plein de mots extrêmement importants qui sont féminins et qui m'englobent moi aussi, qui suis un homme. La Kedusha, c'est féminin. La Torah, c'est féminin. La Bracha, c'est féminin. La Gemara, c'est féminin. Sauf que la Gemara, c'est masculin. Le mot Gemara, ça s'écrit avec un Aleph à la fin. Ça s'écrit pas avec un Hey. C'est de l'araméen. C'est pas. Oh, ça a l'air. Yala.
Mais il y a par exemple
Tzion,
qui a l'air d'être un nom d'homme. Mais en fait, Tzion, c'est féminin. Dans...
Allo, Tishali. Nounou, tu vois, le premier transgenre. Bekitsour, Ish, Tov, Adam,
Adama.
Adama. Le lien qui unit Am Israël qui s'appelle Adam, son féminin c'est Adama. Nahon. Non, bah oh, dans le couple Adam et Chava, c'était Chava, Baya. Mais étymologiquement, le féminin de Adam, ça devrait être la terre. Ça se passe au niveau national. Am Israël, Eretz Israël. D'accord ? Donc Eretz Israël, Ichativa Atzmutit, Kshura Bekesher Chaim, Ima Oma, Chavuka, Bezgulot Penimiot, Im Metziuta. Mazezgulot Penimiot, ça n'a rien à voir avec le fil rouge. Mazezgula. Vatem tiouli, segula mikola amim. Omer Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Otsar chaviv. C'est-à-dire que c'est le trésor particulier. Mais c'est quoi ce trésor? Le trésor, c'est d'avoir de tout. Arimaze am Israël. Zeksat meakol. C'est-à-dire? Donc maintenant qu'il a posé les bases, il te dit, omitorkar.
C'est quoi
Chavuka?
Chavuka.
D'avec. Ok? Bezgulot penimiyot, im metziuta. Toute la différenciation du peuple juif qui forme une grande unité, c'est ça qui se dévoile, qui peut se dévoiler en terre d'Israël. L'unité. Umitorkar, iefchar la amod, c'est-à-dire la avine, iefchar la avine. À la tochen shel zgulat kedushat eretz Israël. Donc dit le Rav, tu peux pas comprendre ce que c'est la kedusha de la terre d'Israël. Ou le otsi la poal et omek ribata. Et tu peux pas mettre en valeur la profondeur de l'amour qu'on a pour la terre d'Israël. Beshum askala rationalit enoshit. C'est pas quelque chose que tu vas expliquer de manière rationnelle. Si tu arrives à expliquer à ta femme pourquoi tu l'aimes, c'est que quelque part, il y a déjà un problème. Qui a chibour ou a beyoter, mais a cher sikhli. Le lien qui unit un homme et sa femme, normalement, il doit être bien plus qu'un lien cérébral. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de connexion cérébrale, mais c'est bien plus que ça. C'est-à-dire Kim beruach Hashem asher ala uma bichlala. Qu'est-ce qui est le seul moyen de réussir à comprendre la connexion qu'on a avec la terre d'Israël? C'est ruach Hashem asher ala uma bichlala. C'est-à-dire, c'est pas toi et moi. C'est le ruach HaKodesh qui plane sur le peuple juif. Qui a amené Am Israël à dire pendant 2000 ans l'an prochain à Jérusalem. Alors que c'était marqué nulle part. Ça, mais il y a quelque chose qui est passé. Be'atba'a ativit aruchanit. Donc, c'est le atba'a, c'est le saut, la signature. Be'atba'a ativit aruchanit asher benishmat Israël shei shelucha shesholech azra et kavea betzva'im tivim bechol orchot shel ha'argasha aberia. Cette dimension de connexion avec la terre d'Israël, elle envoie ses rayons et elle se dévoile où? Bargasha Abria. Efo ze Argasha Abria? Ze Beshuk Machane Yehuda. C'est-à-dire, pas que au Shuk Machane Yehuda. Il y a des gens qui ont fait des grandes, grandes études. Ils sont des grands érudits, que ce soit de gauche, de droite, religieux, pas religieux. Et ils ont tous un avis sur la terre d'Israël. Et qui vont argumenter en 17 exemplaires, en 7 alinéas, paragraphe 12. Et ils peuvent t'expliquer plein de choses. Et puis, il y a le vendeur de cornichons du chouk, à qui tu demandes, est-ce que on peut donner une partie de la terre d'Israël pour la paix? Et il répond, ab
itom. Bon, il dit aussi votre bébé.
Hein?
Il dit aussi
votre
bébé.
En général, ça va ensemble. Alors que tu vas avoir un rabbin, on va lui demander à Aïm Moutar de donner des territoires de la terre d'Israël pour la paix. Top. Alors, qu'est-ce qu'il fait le rabbin? Le rabbin, il a un problème. C'est que ça, ça marche à 2 millions d'allures. Donc, à Argacha, à Tivit, elle est là. Mais c'est pas ça qui prend le pas. C'est ça qui prend le pas. Et donc, il commence à la doune. Il dit, top, c'est une bonne question. Donner des territoires de la terre d'Israël, c'est assur. L'autre chonem. Tzatcheni, je peux croire nefesh. Je peux croire nefesh, doré kol haTorah kula. Donc, peut-être que c'est moutard. D'un autre côté, yesh mitzvat kibush, omer Ramban. Ah, donc mitzvat kibush, doré et pikuach nefesh. Ah, d'accord. La mitzvah de conquérir, ça va au-delà. Mais, bah, la Megillat Esther, il a dit que c'était une mitzvah qui avait lieu jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, elle a pu courir jusqu'au Mashiach. Donc, c'est. Non, alors, c'est interdit. Enfin, on a le droit de donner. Pikuach nefesh revient. Oui, mais tous les commentateurs de la Halakha, après le Megillat Esther, ils ont statué contre lui et pour le Ramban, en disant qu'il y avait une mitzvah pour toutes les générations. Ah, donc s'il y a une mitzvah, donc ça redevient interdit parce que c'est une mitzvah. Tom, Assour.
Puis quoi, une fèche pour les ennemis, hein, pas pour moi. Hein.
Ah, c'est ça. Donc c'est Assour. Voilà. Il est arrivé à la même conclusion que le vendeur de cornichons, parce qu'on a pris un bon rabbin. Il aurait pu arriver aussi à une autre conclusion. C'est-à-dire que des fois, quand tu as trop de sechel, tu n'arrives pas à dévoiler à Argacha, à Tevit, à Bria. Me dit le Rav Kook dans Orot Atria, un autre moment dans le livre, un peu plus tard, que Chayavim, que les Talmidei Chachamim soient en contact avec les Amei Aratzot, et Chayavim, que les Amei Aratzot soient en contact avec les Talmidei Chachamim. Alors, que les Amei Aratzot, les gens qui n'ont pas de connaissances, ils soient en contact avec les Talmidei Chachamim, c'est clair. Parce que sinon, comment ils auront la Torah? Mais pourquoi les Talmidei Chachamim doivent être en contact avec les Amei Aratzot? Dit le Rav Kook, pour qu'ils reçoivent d'eux à Regesh, à Tivi, à Bari. Le sentiment naturel, sain, pas kadosh, mais en bonne santé, que les gens qui n'ont pas forcément beaucoup étudié, ils ont.
Le bon sens.
Le bon sens, on appellera ça.
Il y a des gens qui l'ont pas aussi. Hein. C'est pas hein? forcément. Il y a des gens qui vendent des cornichons à Machane Yehuda et qui l'ont pas aussi. Hein.
Alors tu es en train d'insulter tous les vendeurs de cornichons.
Non, je me dis qu'il doit y avoir. Non?
Peut-être. Je sais pas. Non, c'est... Tiens, c'est un exemple.
Oui, non, mais c'est bon.
Ah bon? Ça peut être le chouk à caramel aussi. Hein, ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה עמידה של רוח הקדושה העליונה הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועומקי המחשבה הישראלית. Ce sentiment naturel, profond et bon, alors qui anime le vendeur de cornichons, c'est lui aussi qui anime la profondeur de la réflexion de ce qu'il appelle ici Levav Kdoshe Araayon ve Omke Amuke Amarshava. C'est qui Kdoshe Araayon ve Amuke Amarshava? C'est Amekoubalim. Chachmei Kabbalah. Je vous ai dit, c'est ce sentiment-là, c'est lui qui anime Chachmei Amekoubalim. Amarshava, al Dvar Eretz Israël. Sheirak Erech Chitsoni, Kede Amadat Agudat Auma. Pensez que la terre d'Israël, c'est juste un endroit où on va pouvoir se réunir. אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה ולחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה. Même si tu dis, attends, venir en Israël, ça permet de réunir les juifs et de leur faire faire des mitzvot, ils mangeront mieux kasher parce qu'il y a plus de restaurants kasher et tu peux, il y a plus de yeshivot. Donc, de dire ça, que tu viens en Israël parce que tu peux mieux faire la Torah, ça part d'un bon sentiment. Il dit, En la apri a raouy le kiyum. Ça n'a pas le fruit. Mais c'est appris. Appris, où est-ce qu'on a vu un prix dans la Torah? en particulier?
Bereshit.
Bereshit. Etzachaim. Mazel Etzachaim. C'est la Torah. Donc c'est une Torah.
C'est pas voué à perdurer. C'est ça?
C'est-à-dire que voilà, si pour toi c'est ça l'idée d'Eretz Israël, voire même autrement, pour l'instant on ne peut pas bien faire les mitzvot en Eretz Israël parce que les Anglais ne nous laissent pas ou les Turcs ne nous laissent pas, alors vaut mieux rester dans nos communautés où on peut faire les mitzvot. Kol ze en a pri araoui lekiyum. C'est l'autre Torah. C'est l'autre Torah shel Etzachaim. C'est Torah acheret shel Etzadat. D'accord? Donc je te dis, en a pri araoui lekiyum. Qui a yesod azé de dire.
Je ne comprends pas, parce que tu as beaucoup de gens, beaucoup de communautés qui te disent voilà, on étudie mieux la Torah, on a notre Kéhila, etc. Et donc.
Nous? Non, attends, il y a deux choses. Là, on a dit, il y a ceux qui te disent Israël, c'est bien pour mieux être religieux. Ouais. Te dis, Zélo Maspik. Après, pour les gens qui te disent, on peut être mieux religieux en Khoutz Laaretz, ça s'appelle Yetzer Hara. Enchoum, le Rav Kook, qui ne rentre pas là-dedans. Zé Yetzer Hara. Zé Cheta Meraglim. De dire, on peut être mieux religieux en Khoutz Laaretz.
Bon, alors, peut-être pas aujourd'hui, mais bon, du temps des Anglais ou un truc comme ça, enfin, un autre temps.
Pourquoi tu vas du temps des Anglais? Du temps des explorateurs dans le désert. Il y avait la structure extraordinaire du désert. Mm-hmm. Il n'y avait pas de structure, il y avait zéro structure à l'époque en Eretz Kenan.
Ouais.
Donc de la Tahana qu'on connaît, de dire attends, on va quand même pas aller là-bas, on va rester ici, machin. C'est la même Tahana tout le temps. Et on la réentend aujourd'hui. Alors on entend aujourd'hui, tu te rends pas compte, en Israël, les gens ils arrivent, les francophones, avant ils étaient reliés à une communauté, ils arrivent en Israël, ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes.
Qu'est-ce qui fait que pour l'étude de la Torah, alors c'est permis de sortir de ça?
Ah, s'il n'y a pas de Torah en Israël. D'accord. S'il n'y a pas de Torah, dit le Rambam, c'est une des trois raisons qui nous permet de quitter la terre d'Israël, ouais. Agave, de manière temporaire, jusqu'à ce que ça soit possible d'y revenir. C'est jamais le Tzmitout. Mais il te dit, il n'y a pas de femmes. Pénurie de femmes juives en Israël, donc tu ne peux pas te marier. Bon, moutarde d'aller en Khoutz Laaretz. Ou alors, il n'y a pas de travail. Pas de travail du tout. Zéro travail. Famine. Comme lui, ça lui est arrivé, le Rambam, il a dû partir parce qu'il y avait la famine. Bon, bah, ok, moutard. Ou alors, il n'y a plus de Torah. Les croisés, ils sont venus, l'Empire byzantin, il a interdit d'étudier la Torah, il n'y a plus de Torah. Bah, je ne peux pas rester sans la Torah. C'est-à-dire, mais pas comme m'ont dit des gens qui étaient chez moi à Sukkot cette année, des gens qui sont en Angleterre, et qui nous ont dit, mais tu sais, mais gentiment, hein, en nous regardant dans les yeux, qu'ils ne peuvent pas venir en Israël. Le jeune qui a 20 ans, il ne peut pas venir en Israël parce qu'il n'y a pas d'yeshivot en Israël. Mais honnêtement, il n'y a pas d'yeshivot en Israël. Je lui dis, attends, deux secondes. Laisse tomber ma kippa sruga à moi, tout ça. Ok. Kippa noir, chapeau. Il n'y a pas d'yeshivot, kippa noir, chapeau. Il n'y en a pas. Il dit, non, mais bien sûr, il y a Yeshivat Hevron, Yeshmir, mais c'est des industries, c'est énorme. Mon fils, il a besoin d'une plus petite structure, tu vois, une centaine de bachourim maximum. Et donc, il n'y a pas de Yeshivot à 100 bachourim. Non, pas sérieuse comme il y a en Angleterre. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est-à-dire, donc ça, c'est même pas un dioun.
Manchester, c'est le
centre. Ah, nous. Kayesod Azeu Raoua. Il est chasser. Be'erech eitan ha-kodesh shel Eretz Yisrael. Ha-imutz, ha-amiti, shel ra'ayon ha-yahadut ba-gola, bo yavo rak mitzad omek shiku'o be'eretz Yisrael. U'mitikvat Eretz Yisrael yekabel tamid et kol tchunotav ha-atzmiyot. Voilà. Comme ça, au cas où c'était pas clair, le Rav Kook te dit, le seul liant, le seul moyen de faire perdurer une existence juive dans les communautés de Khoutz Laaretz, c'est Omek Shiku'o Be'eretz Israël. C'est combien les communautés de Khoutz Laaretz sont imprégnées d'Eretz Israël. Et il termine sur une phrase fantastique que je vous invite à mémoriser énormément, où il dit Tzipiyat Yeshua Hi koach ha-ma'amid shel ha-yahadut ha-galutit. L'espoir de la délivrance, donc le fameux l'an prochain à Jérusalem, c'est la force qui maintient le judaïsme de Galout. Aval, ayahadut shel Eretz Israël, hi ayeshua atzma. Le judaïsme d'Eretz Israël, c'est ça, la délivrance elle-même. Et c'est vrai que ce qui a maintenu les communautés de se rattacher au peuple juif, pas au kiyuma mitzvot, mais ce qui a maintenu les communautés d'être rattachées au peuple juif, c'était l'an prochain à Jérusalem. C'était l'espoir qu'un jour, il y aura une autre réalité.
C'est pour ça que ça s'effondre aujourd'hui, qu'il n'y a plus de...
Bah, aujourd'hui, y a les gens qui restent en route d'arrêt, ce n'est pas une question d'espoir. Il est là, l'espoir. Non,
ça donc, vu qu'il n'y a plus cet espoir-là, alors elle s'effondre.
Il y a, comment il s'appelle ?
La communauté.
Aujourd'hui, les communautés de Ruth Laaretz, elles ont deux modèles, d'après mon ami Dov Maimon. Elles ont deux modèles pour l'avenir. Soit c'est des communautés comme la communauté de Metz qui va aller en disparaissant. Alors ça prendra 30, 40, 50 ans, l'homme échané, puisque les vieux... et les jeunes, ben, y en a pas et n'arrivent pas. Donc c'est la réalité de voilà. Et les communautés qui reçoivent des jeunes ou alors qui font des enfants machin, sont des communautés qui vont petit à petit se construire leur propre prison dorée. Et d'après Dov Maimon, le judaïsme de France prend la direction du judaïsme sud-africain et sud-américain. Et ressemblera comme deux gouttes d'eau à ces communautés-là d'ici une cinquantaine d'années. C'est-à-dire que tu prends au Brésil, tu prends au Mexique, tu prends un truc, il y a des communautés très fortes qui vivent dans des prisons dorées, qui ont des très bons salaires, des très très belles villas, des très belles communautés entourées de murs. On n'a pas le droit de sortir de la maison sans son chauffeur privé qui a un truc parce que c'est une prison. Tu ne peux pas sortir en tant que juif. Parce qu'il y a antisémitisme, parce que.
C'est pas que antisémitisme.
Non, j'ai dit parce que. Et tu vis dans ta prison dorée. D'accord ? Jusqu'à ce que les murs de la prison s'effondrent, s'effritent pour une raison ou pour une
autre. Les communautés, ça a sa place dans le plan dont on parle, des communautés chauffards. C'est-à-dire qu'on a aussi une vocation à être hors la goïne.
Right.
Non, pour d'où tu sais répondre ça à cette
d'où
vocation.
Tu sais ça.
C'était le jour, c'était le premier jour.
Non, mais
c'est toi qui parlais de hors la goïne, non
c'est,
d'où on sait
Goï Kadosh, même les Chet Kohanim, mais hors la goïne. C'était les trois, on va dire.
Les goïnes le disent eux-mêmes.
Mais non, pour être hors la goïne, il faut avoir un contact.
Alors, les goïnes le disent eux-mêmes. Dans le livre de Yishayahu, lorsqu'ils disent Bouna Ale El Hashem El Bet Eloya.
Je veux dire qu'il y aurait une place pour le juif, c'est-à-dire des communautés sionistes.
Il y aurait une place en Chutz La'aretz d'ambassadeur du peuple d'Israël.
Mais
tu comprends que c'est
une forme de communauté
Après, dans les faits, comment est-ce qu'ils vont vivre sur place? On s'en fiche.
Par exemple, des vraies communautés. Franchement,
il y a une différence.
Très lié avec le judaïsme.
Donc, ce que je te dis, il y a une différence entre je suis un juif en France ou je suis un envoyé de l'État d'Israël en France. C'est deux dimensions différentes.
Mais
aussi au vu.
Pas forcément aussi.
Voilà, c'est ça toute la question.
Mais
tu dis, est-ce qu'il y a de la place pour des ambassadeurs du peuple juif en Roule? Oui, bien sûr. Mais c'est l'ambassade de quoi? Du peuple juif en tant que dispersé parmi toutes les nations ou d'une centralité qui met Sion, etc. au Dvar Hashem Yerushalayim. C'est ça tout le truc.
Si on prend les communautés juives, par exemple, des États-Unis, ceux qui font le lobby, ceux qui sont des communautés Rabat, par exemple, en Belgique, qui font le lobby au sein des communautés européennes, par exemple.
La communauté européenne, tu parles des goyim, quoi, tu parles.
Ouais.
Ça.
Ouais.
La communauté européenne, pas les goyim.
On parle, par exemple, de lobby juif au sein de. Et derrière ces lobbies juifs, il y a des communautés, des institutions, etc., qui sont implantées en rôle.
C'est Yerhol. Ça peut amener du positif au niveau individuel. C'est-à-dire qu'au niveau individuel, tu vas pouvoir faire changer une mentalité, deux mentalités, trois mentalités 12 mentalités. Tu vas pouvoir ramener aussi des juifs à la tradition juive. Mais tu ne peux pas avoir un impact sur la dimension collective. Pourquoi ? Parce que tu ne parles pas en tant que collectif, tu parles en tant qu'individu. Quand il y a un individu, quelle que soit sa grandeur, qui parle, même un très grand rabbin, même le Rav Zaks, lorsqu'il parle, c'est un juif, citoyen anglais et au service de Sa Majesté, qui parle. Alors, comme il est très bon, il a une aura et tout le monde l'écoute et ça va. Mais c'est pas pareil si le Rav Zaks, il est le grand rabbin d'Israël. C'est pas du tout la même portée au niveau de l'influence et du regard du monde si tu es le grand rabbin d'Angleterre ou le grand rabbin de l'État d'Israël. Au niveau théologique aussi.
C'est le visage du judaïsme en Angleterre. C'est...
Alors justement, c'est le visage du judaïsme. Est-ce que c'est un judaïsme anglais ou est-ce que c'est le peuple d'Israël qui a une ambassade, comme toutes les ambassades, en Angleterre ? Quand tu vas à l'ambassade d'Israël en Angleterre, légalement, tu es en Israël. Tu manges des falafels. Quand tu vas dans le bureau du grand rabbin d'Israël, de grand rabbin d'Angleterre à Londres, tu es en Angleterre.
Donc s'il n'y a pas la composante de la nation,
bien sûr.
Tu peux pas.
Tu peux influencer au niveau. Tu peux, ben non, tu peux jouer au niveau des individus, ouais. Mais tu peux pas avoir un rôle sur les goyim en tant que souveraineté. Kimitzion, etc.
Puis
les Bnei Noir, justement, pourquoi est-ce que le Rav Shapi te dit, le Rabbi Lubavitch, il avait commencé l'histoire des Bnei Noir avant lui. Mais c'était en mode, là où on est, on va influencer les goyim autour de nous. Il dit non, il faut que ça vienne de Jérusalem. C'est parce qu'on a retrouvé une dimension de nation qu'on peut avoir un message sur toute l'humanité. Donc c'est fondamental la connexion avec la centralité.
Mais ce dont on parlait avec le Rav Cherki, lui aussi, c'est en tant qu'individu qui va... Il n'est pas nommé par l'État d'Israël
ou... Il n'est pas... Non, c'est pour ça que ça ne marche pas encore au niveau que ça devrait marcher. Mais il est le premier à le dire. C'est, dès qu'il sera mandaté par l'État d'Israël, ce sera autre chose. Ouais, bah après, c'est pas une d'organisation. C'est vrai ? Mais Nahan. Top, on a fini le premier chapitre. Enfin, ça commence.